12 avril. Les vacances de Blanche sont commencées. Elle est arrivée à la maison avant-hier, après les offices du samedi saint. J'étais si heureuse de la revoir sous mon toit, de me dire que nous allions de nouveau, ma chère fille et moi, respirer pendant quelques jours le même air et causer ensemble et nous embrasser à notre aise, que j'avais rempli sa chambre de fleurs. Je me faisais par avance une joie de sa surprise, de ses cris d'admiration. Je n'ai eu qu'une déception. Elle, qui les aimait tant, les a regardés à peine et m'a remercié du bout des lèvres. J'avais aussi commandé pour elle une belle robe claire et un amour de chapeau, me disant que je ne serais pas peu fière de la conduire dans cette jolie toilette à la grand-messe de Pâques. J'ai eu toutes les peines du monde à obtenir qu'elle quittât sa vilaine livrée sombre du couvent et cette horrible galette plate en paille noire qu'on leur met sur la tête. Je l'ai connue coquette pourtant, la chère mignonne. Eh mon Dieu, quand j'y pense, il n'y avait pas grand mal à cela. Comme ma fille s'est assagie depuis 6 mois. Vraiment, on obtient des résultats étonnants avec cette éducation de couvent. Voilà qu'elle n'aime plus les fleurs ni la toilette maintenant. C'est admirable. 13 avril. Positivement, je ne reconnais plus Blanche. Sa conduite, sa tenue, son langage, son instruction, sa piété sont autant de sujets d'édification pour moi. Elle connaît le nom de la capitale du Beloutchistan et la date de la mort de Louis le Bègue. Elle possède des lumières que je lui envie sur le concile de Trente, ne toupillonne plus du tout, ne toupillonne même plus assez à mon gré dans la maison qu'elle remplissait de ses cris, de ses rires, de ses galopades. Et quand je lui demande si elle n'aurait pas envie de faire une partie de billard, son cher billard d'autrefois se récuse d'un air qui me donne à penser que les bonnes sœurs ont dû lui dire qu'il se cache dans ce jeu quelque chose de diabolique. Je voulais une fille bien élevée, je l'ai. 14 avril. Je commence même à trouver que cela dépasse un peu la mesure, qu'elle est vraiment trop bien élevée. Assurément, je n'aimais guère les poignées de main garçonnières qu'elle donnait jadis à tout venant, ses poignées de main à angle droit, le coude levé au niveau de l'épaule. Mais je ne suis pas bien satisfaite non plus de la voir à présent tendre aux gens le bout de ses doigts avec le geste court et serré au corps d'un dévot offrant de l'eau bénite à la sortie de l'église. Je n'ai pas pu m'empêcher de lui dire hier, quand son cousin Pierre est venu la voir et qu'elle lui a donné ainsi la main. « Ne fais pas ta nonne, je t'en prie. » Ma fille apparut fort scandalisée de ce propos. L'autre, qui arrivait les bras tout grands ouverts pour l'embrasser, apparut suffoquée de cet accueil. Quand on a joué ensemble à faire des culbutes sur les meules de foin, cela surprend un peu d'être reçu de la sorte par sa petite amie. Pierre est parti tout déconfit. Je le regrette car c'est un brave garçon, un fort bon sujet qui fera son chemin. Et justement, quand je l'ai vu entrer hier, avec son plumet rouge et blanc, ses galons de sergent-major, qu'il échangera dans 3 mois pour un galon de sous-lieutenant, je m'étais dit que plus tard, quand elle aurait l'âge... Ah, mais je suis folle d'avoir de ces idées-là. 15 avril. Ce qu'il y a de plus extraordinaire, c'est le changement qui s'est opéré dans le ton des rapports de Blanche avec son beau-père. Cette petite, si gamine il y a 6 mois avec lui, me confond maintenant par sa réserve. Elle a une façon modeste de baisser les yeux en lui parlant et de lui dire d'une voix suave « Mon père », comme un confesseur qui ne me plaît qu'à moitié. J'aimais mieux son bon regard franc et hardi d'autrefois. Ce regard-là était limpide comme l'eau de source, tandis que je trouve dans celui d'aujourd'hui je ne sais quoi de prude et de sournois tout ensemble qui me donne fort à penser. La parfaite innocence ne regarde pas ainsi. Jacques, qui, cet été, n'était à ses yeux qu'une manière de grand frère et de camarade, est devenu, j'en suis sûre, quelque chose d'autre pour elle. Mais cela est horrible à penser. Hélas, qui l'a voulu ? Ah, malheureuse que je suis, je comprends tout maintenant. J'ai été jalouse, jalouse de Mise, jalouse de Blanche. C'est pour cela que j'ai chassé l'une, écarté l'autre. Et comme il fallait que je fusse punie de cette mauvaise action, voici que le couvent me renvoie, au lieu de l'enfant ayant avec l'azur du ciel la pureté des anges dans les yeux, une jeune fille qui ne peut plus tendre sans rougir un peu le front aux lèvres de mon mari, parce qu'on lui a révélé que la pudeur des femmes se devait alarmer du contact de l'homme et parce qu'elle sent maintenant que son beau-père est un homme. Oh, que je suis coupable et quelle honte m'écrase! Voilà donc pourquoi je souffrais de la voir assise sur les genoux de Jacques ou sautant à son cou la candide créature qu'elle était et que, par ma faute, elle n'est plus. L'intérêt de son éducation, de son instruction, mensonge et duperie. La vérité, c'est que j'ai obéi à la suggestion du plus vil, du plus bas de tous les instincts. J'ai été jalouse de ma fille parce qu'elle était trop libre avec Jacques. Qui sait si je ne le suis pas encore aujourd'hui parce qu'elle ne l'est plus assez. 22 avril. Je bénis l'inspiration qu'a eue mon mari de nous emmener à Fontainebleau. Je dois, sans doute, au séjour charmant que nous venons d'y faire, d'avoir retrouvé ma fille. La forêt commençait à mettre sa jolie robe verte de renouveau, sauf les chênes, qui portent plus longtemps que les autres arbres le grand deuil couleur de rouille pris par les bois en hiver. D'innombrables bourgeons, des myriades de brins d'herbe mêlés de quelques timides fleurettes, pointées de toutes parts, dressées vers la lumière, et l'on sentait comme une sourde fermentation de vie qui s'élaborait mystérieusement dans les entrailles de la terre, couvée par le soleil déjà chaud. Chaque jour, nous faisions une longue promenade, moi en voiture, car je suis bien faible encore, eux à cheval. Est-ce l'influence de l'exercice, de la vie saine au grand air, ou toute autre cause? Ma Blanche d'autrefois, ma rieuse et folle enfant, a peu reparu. Je l'ai vue, avec une joie profonde, se détendre, s'épanouir, quitter ses petits airs pincés, redevenir elle-même, enfin. Grâce à Dieu, le régime du couvent ne me l'a pas changé autant que je commençais à le craindre. Le soir où elle nous a quittés pour entrer aux oiseaux, elle m'a demandé tout d'un coup, d'un petit air hypocritement détaché, « Dis donc, maman, sais-tu si Pierre servira dans les dragons ou dans les chasseurs lorsqu'il sera officier ?» J'étais stupéfaite. « Que t'importe ?» lui ai-je répondu. « C'est que j'aime mieux les dragons, » a-t-elle répété avec conviction. « Elle aime mieux les dragons, voyez-vous ça ? Voilà donc pourquoi mademoiselle semblait si joyeuse à Fontainebleau et donnait tant de morceaux de sucre à sa jument. Oh, ces petites filles !» 23 avril. Nous sommes revenus depuis 2 jours à Paris et le souvenir des heures délicieuses que j'ai passées là-bas ne me quitte plus. Comment dire de quels hommages ingénieux et sans cesse renouvelés Jacques m'a entouré pendant cette trop courte semaine. Quel autre saurait comme lui mettre quand il veut des caresses dans son regard, dans son sourire, dans le moindre de ses gestes, dans chacune des inflexions de sa voix? Et pourtant, je m'en souviens, il y a des jours où quelque souffle de passion bouleversant soudain cette âme, mobile comme les flots de la mer, j'ai découvert, sous les dehors aimables dont la violence de ses instincts se pare, des frayants dessous d'égoïsme et de dureté. De ces deux aspects contraires, quel est celui où se reflète le plus fidèlement le fond même de son être moral? Je devrais le savoir puisque je suis sa femme, et je m'aperçois que je l'ignore. Ce qu'il y a d'essentiel en lui m'échappe, me fuit sans cesse. Cet homme, qui est mon mari, reste pour moi la plus inquiétante des énigmes. Ah, que son pouvoir sur moi serait donc moindre s'il ne me connaissait pas si bien et si je le connaissais mieux. Mais, tandis qu'il gardait avec un soin jaloux le secret de son être intime, je me suis livrée sans réserve et c'est pour cela qu'il est devenu mon maître, le plus impérieux des maîtres, alors même qu'il prend ces airs câlins et humbles dont il aime à déguiser l'absolue domination qu'il exerce sur moi. Il me possède comme un virtuose son instrument. Je sens qu'il ne m'est plus possible de ne pas vibrer à son gré, et je rends, avec la même docilité qu'une harpe, les sons qu'il exige que je donne, tristes ou joyeux. Si je viens d'être heureuse, pendant ces quelques jours passés à la campagne, c'est qu'il l'a bien voulu. Et s'il lui plaît par aventure, À présent que nous voici de retour à Paris, que je cesse de l'être, qui pourrais-je faire, hélas, puisque cet homme est la source, tantôt empoisonnée et tantôt bienfaisante, où ma pauvre âme puise toute souffrance et toute joie. 8 mai. Oui, je comprends maintenant. C'était pour mieux me reprendre, mieux m'enlacer, mieux abolir en moi toute énergie, toute fierté, qui m'a emmenée à Fontainebleau pendant les vacances de Blanche. On isole ainsi les sujets qu'on veut magnétiser. Le fluide opère d'une façon plus efficace et plus prompte. Et quand il a été bien sûr de m'avoir replacée tout entière sous son détestable empire, quand il m'a vue dupe de ses protestations menteuses, dupe de ma tendresse, dupe même de ma piété, qu'il a plaidé pour lui, comme si ce n'était assez de ma lâche passion, quand il m'a vue repentante de ce mouvement de révolte que j'avais eu en apprenant sa trahison, quand il a cru que j'étais devenue vile au point d'être prête à pardonner de nouveau, à tolérer tout, désormais, pourvu qu'il me fît de temps en temps l'aumône dédaigneuse d'un baiser, alors, me jugeant suffisamment assoupli et à jamais dompté, il m'a ramené à Paris et a recommencé sa vie infernale d'autrefois. Il passe les nuits au cercle. Un mot de mon notaire me donne même à penser qu'il a dû faire ces jours-ci quelque grosse perte. Ah mon Dieu, qu'il joue, qu'il me ruine s'il veut, mais qu'il ne me trompe pas. 15 mai. Il ne dîne même plus à la maison. Depuis le commencement de la semaine, on l'a rencontré 3 fois à l'hippodrome. Quelque écuyère, sans doute. Les gens qui m'ont dit cela, des femmes, des amis, m'observaient, cherchant à surprendre sur mon visage l'effet de la doucereuse et perfide révélation. J'ai souri. Je sais maintenant de quel air les martyrs chrétiens regardaient leur bourreau. 25 mai. Aujourd'hui, je me sentais en proie à une telle détresse que je suis entrée à l'église pour prier. C'était celle où l'on nous a mariés il y a 1 an bientôt. Je me suis rappelé soudain cette hirondelle qui tournoyait dans la nef au-dessus de nos têtes, cherchant une issue. Prisonnier du mariage, le volage que j'ai pour époux a fait comme l'oiseau captif. J'ai beaucoup prié, beaucoup pleuré aussi, et je suis rentrée chez moi, un peu soulagée par cette prière et par ses larmes. 27 mai. Le sentiment que j'ai eu pour Jacques, ne cherchais-je point à me tromper moi-même en parlant ainsi du passé, ce sentiment n'était pas assez pur de tout alliage grossier. Je voudrais le dépouiller de ce qu'il y avait en lui d'égoïste et de bas, le spiritualiser, au point qu'il participe enfin de la noblesse, de la grandeur des sacrifices surhumains et du martyr. La jalousie, c'est le cri de la chair, et la chair est vile. Je n'ai que trop écouté cette honteuse voix. Je ne veux plus l'entendre, je veux qu'elle se taise. Comme je serais fière de la victoire remportée sur moi-même, si je pouvais me dire un jour que je n'ai plus pour lui que la tendresse d'une sœur. 28 mai. La tendresse d'une sœur, non, ce n'est pas assez. D'une mère, oui. Il y a dans l'amour maternel quelque chose d'inquiet et d'ardent qui conviendra mieux à mon pauvre cœur, tout frémissant encore, que la tendresse égale et paisible des sœurs. Oui, c'est bien ainsi que je veux le chérir. Mais hélas, toute femme malheureuse et trahie n'a-t-elle point formé la résolution d'aimer autrement quand elle ne se sentait pas la force de ne plus aimer? Et combien en est-il qui est réussi? D'ailleurs, n'est-ce point commettre à l'égard du plus beau de tous les sentiments une sorte de profanation que de prétendre aimer comme une mère celui que j'ai si longtemps aimé comme une amante? Sa place dans mon cœur pourra-t-elle jamais être la même que celle qui tient ma fille? Oh, la dure entreprise, et comme il faut que j'ai besoin d'aimer encore d'une façon quelconque, fût-elle sacrilège, ce cruel et cet ingrat, pour que j'ose songer seulement à une pareille chose. 10 juin. Hier soir, il m'avait fait la grâce de dîner à la maison. Me voyant très pâle, il avait même daigné prendre des nouvelles de ma santé, dont il se soucie moins, je crois, que de celle de son cheval. Et comme je suis ainsi faite que la moindre marque d'intérêt qu'il me donne me touche encore autant qu'au premier jour, je me sentais déjà pleine de gratitude. À table, il m'avait parlé de me conduire au bois, en voiture, après dîner, et je me faisais une fête de respirer, assise auprès de lui, l'odeur des acacias en fleurs, me souvenant que c'était un soir de printemps semblable à celui-là, un soir tout parfumé, où des étoiles filantes rayaient la nuit bleue, qu'il m'avait, pour la première fois, parlé de son amour, aussi éphémère, hélas, que ces beaux météores. Un télégramme arriva qu'on lui remit au moment même où nous allions partir. Il s'excusa d'un air embarrassé, prit son chapeau, sa canne, et sortit, me laissant seule, comme toujours. Et s'en fut fait de la petite lueur de joie qui commençait à trembloter timidement au fond de mon cœur. Je sentis quelque chose comme un grand voile de désespérance qui s'abattait sur moi et qui m'enveloppait toute. Je me couchai, j'ouvris un roman, je ne sais lequel. Ah, qu'elles me semblaient peu de choses comparées aux miennes, les souffrances imaginaires dont je lisais les récits. Et comme ceux qui font ces livres-là s'en vont loin chercher des sujets, comme ils les compliquent inutilement, alors que tant de drames simples, terribles et déchirants, semblables à celui qui se passe ici même, s'accomplissent autour d'eux. N'ont-ils donc pas d'yeux pour voir, ni d'oreilles pour entendre? Ah, si j'étais homme, si je savais écrire, si je pouvais conter l'histoire de la misérable créature que je suis, je leur en montrerais un livre. Et dans ce livre, il n'y aurait rien, ni fades et pâles personnages, ni ridicules aventures, ni intrigues ingénieuses et puériles, rien qu'une âme, une âme vibrante et douloureuse, luttant contre un sentiment plus fort qu'elle, comme Jacob avec l'ange. Et ils verraient bien si ce n'était point là de l'humanité, comme ils disent, et de la bonne, de celle qui fait que quelque pauvre être, lisant un livre dont l'auteur n'est plus qu'une poignée de poussière, si c'est un vrai livre du cœur, retrouve dans ses pages, restées jeunes parce qu'elles étaient sincères, quelque chose de sa propre souffrance, et souffre un peu moins peut-être, en constatant que d'autres ont souffert du même mal, bien longtemps avant lui. Les heures passaient. Je les écoutais sonner l'une après l'autre à la grande horloge des écuries, lente, monotone, et si triste qu'elle me faisait songer à de grosses larmes venant je ne sais d'où, qui auraient fait du bruit en tombant dans la nuit. J'étais si lasse que je finis par m'assoupir. Quand je me réveillai, la bougie que je n'avais pas soufflée, le sommeil m'ayant surprise au milieu même de ma lecture, agonisait près de moi sur la table. Un peu de lumière blafarde commençait à filtrer à travers les lames des persiennes. 4 heures sonnèrent. Je me levai, j'ouvris avec précaution la porte de sa chambre. Elle était vide. Que se passa-t-il alors en moi? Je ne me le rappelle plus bien. Je me souviens seulement qu'une angoisse inexprimable me saisit. L'idée qu'il était malade, blessé, mourant peut-être, traversa soudain mon esprit. Vêtu à peine, enveloppé d'un grand manteau, une mantille sur la tête, je descendis, obéissant comme une somnambule à je ne sais quelle étrange suggestion qui me commandait d'aller à sa recherche. Comment je fis ouvrir par le concierge la porte de l'hôtel, comment je me trouvai dans la rue, je ne le sais plus. J'allais droit devant moi. Des cabarets commençaient à s'ouvrir, des voitures de maraîchers chargées de légumes descendaient lentement les Champs-Élysées. D'autres, des voitures de laitiers, passaient à fond de train avec un grand bruit de ferraille qui montait comme un cliquetis d'armes entrechoqué dans le silence de la ville encore assoupie. Je rencontrai des ouvriers se rendant, outils sur le dos à leurs tâches, des chiffonniers qui en revenaient, ployant les chines comme des bêtes harassées sous le poids de la haute plaine, des balayeurs, des palefreniers en sabots, des hommes au visage hâve et flétri, à la barbe inculte, aux yeux mornes, cerclés de paupières sanglantes, noctambules fatigués qui erraient mélancoliquement en quête de quelques coins pour dormir. Tous ces gens passaient devant moi comme des figures de rêve. Je montai l'escalier du cercle. Dans l'antichambre, un garçon dormait, allongé sur une banquette. Je le réveillai et je lui demandai si M. Dorcel était là. Il me répondit que M. Dorcel avait quitté le cercle à minuit. Je redescendis, je pris une affreuse voiture qui passait, je me fis conduire à un autre cercle, puis à un tripot, où j'avais appris qu'il jouait quelquefois aussi. Personne. Alors, je pensai qu'il avait été assassiné et je fus sur le point de me faire conduire à la morgue. Puis, l'idée très simple, pourquoi ne l'avais-je pas eu tout de suite, je l'ignore. L'idée me vint qu'il était allé finir sa nuit de jeu chez quelque fille. Et je sentis que j'aurais mieux aimé le trouver gisant au coin d'une rue, la poitrine trouée, que de le savoir là où je devinais qu'il était en ce moment même. Je me fis ramener à l'hôtel. « Monsieur vient de rentrer, me dit tout bas le concierge. Je ne lui ai pas dit que madame était sortie. » « Oh, honte! Qu'a-t-il donc cru, cet homme, que j'étais allé faire ?» Je montai, j'entrai dans sa chambre violemment. Il se déshabillait, se retourna, parut surpris. « D'où venez-vous ? Lui dis-je. « Et vous-même » répondit-il froidement, après m'avoir enveloppé d'un regard dur. J'éclatai, je lui dis ce que j'avais fait, d'où je venais. Je l'injuriais, je sanglotais, je me tordis les bras de désespoir devant lui. Et ses yeux ne me quittaient pas. Il observait ma douleur comme un spectacle quelconque, curieusement, sans pitié. Puis, quand j'eus fini de lui dire ce que j'avais sur le cœur, il se mit à parler à son tour. Il me raconta je ne sais quelle histoire absurde, qu'il s'était pris de querelle au cercle avec un de ses amis, qu'il était allé en consulter deux autres pour savoir s'il devait demander réparation, que, la question étant délicate, complexe, la délibération s'était prolongée fort tard. Que sais-je encore ? Je sentais qu'il mentait, et l'idée de ce duel, auquel je ne croyais pas, me faisait peur néanmoins. Alors, voyant que j'étais ému, le bourreau se mit à sourire, comme il fait chaque fois qu'il s'est donné à lui-même une preuve nouvelle de l'omnipotence de sa domination. Il prit mes poignets, m'attira impérieusement sur sa poitrine. « Ah, lâche, lâche que je suis, vile créature, femme folle de son corps! Tout mon ressentiment, toute ma colère s'est fondue en tendresse. J'ai noué mes bras autour de son cou, j'ai contemplé dans une sorte d'extase cette belle tête blonde de Christ. J'ai embrassé mille et mille fois ses yeux bleus, fatigués et cernés, que je sentais remuer sous mes lèvres, comme le cœur d'un oiseau qu'on tient dans la main. Je me suis laissé aimer par cet homme, et les baisers qu'il me donnait, ces baisers infâmes, touchés encore de la bouche d'une autre, je ne les ai jamais trouvés aussi enivrants. Dans quel abîme d'ignominie suis-je en train de rouler ?